Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Mercredi 25 août, bonne journée, bienvenue au 88.5 avec ce matin une autre journée chaude qui se profile à l'horizon. Cette canicule qui a commencé il y a presque une semaine maintenant devrait prendre fin demain, en fait plutôt vendredi. Là, il reste deux journées très chaudes. Alors le portrait pour ce milieu de semaine, c'est du temps généralement ensoleillé, des vents qui sont légers, qui font du bien, mais quand même rien de majeur. Maximum aujourd'hui 31. L'humidex devrait tourner autour de 40 et l'indice UV est très élevé à 8. En soirée, nuageux, avec possiblement un peu de pluie, même durant la nuit. Minimum prévu 23 degrés. Demain, soleil et nuages. Encore là, c'est lourd, c'est pesant et il pourrait y avoir un peu de pluie. Maximum 33 demain, humidex 39 et l'indice UV 8 degrés. Finalement, vendredi, on prévoit une alternance de soleil et de nuages. Température normale de saison, autour de 23 degrés. Et la fin de semaine, je vous le dis tout de suite, là, ça peut changer, mais les prévisions laissent entendre que ce sera surtout couvert, nuageux, et des températures autour de 23-24 le jour et à peu près 17-18-19 durant la nuit. Beaucoup de choses ce matin. Évidemment, commençons par le passeport vaccinal. Je dois vous dire, j'ai téléchargé l'application. Pour les gens qui ont Android, ça va prendre quelques jours. Mais pour ce qui est de Apple, ça se fait facilement. Ça m'a pris quelques secondes. Vous allez chercher l'application. Vous l'installez dans votre ordinateur. Vous faites une photo de votre code QR et ça prend quelques secondes. Et ça dit tout simplement que vous êtes donc tout à fait protégé et vous pouvez présenter cette preuve. Alors, le passeport vaccinal est un outil pour les activités jugées non essentielles. Et là, on peut discuter jusqu'à demain de ce qui est essentiel ou pas, mais ça veut dire que pour les sports d'équipe, les sports de contact, on peut penser au karaté, on peut penser au judo, ou d'autres activités, crossfit, patinage de vitesse, ça prend le passeport vaccinal. Pour les restaurants, pour les gyms. Et là, il y a beaucoup de questions sur les gyms avec toute la question de la politique d'abonnement. Quelqu'un qui ne veut pas être vacciné, comment le propriétaire d'un gym doit gérer ça? On aura des précisions, pas ce matin, mais probablement dès demain. Les festivals, même scénario. Donc, vous voulez aller au resto, vous voulez voir un spectacle, ça prend la double vaccination et ça prend la preuve. Et quand on dit la preuve, ça prend ce code-là, et aussi une autre pièce d'identité pour éviter que des gens se passent comme ça des passeports vaccinaux. Là, encore, plein de questions. J'ai pas de carte avec photo. Exemple, j'habite une résidence, la carte d'assurance maladie, je l'ai pas en permanence. Tout ça va s'ajuster, il y a une période de 2 semaines, là, à partir du 1er septembre, où il y aura pas de pénalité. Ce qui déçoit, principalement les restaurateurs, mais disons les organisateurs de spectacles, propriétaires de salles, on avait l'impression que le passeport permettrait d'assouplir les mesures et permettre, par exemple, à un plus grand nombre de personnes d'assister à des événements ou d'aller au restaurant. Ce n'est pas le cas, du moins pour l'instant. On n'a pas non plus de date d'échéance. À quel moment ce passeport sera retiré? On est d'accord pour dire que c'est une mesure temporaire, ça ne peut pas être de façon permanente. Vous me direz, ça va dépendre de l'évolution de la pandémie, COVID, le nombre de cas. Est-ce qu'on prend le contrôle de cette quatrième vague? Bref, je pense que c'est un outil qui est essentiel. Moi, je suis d'accord avec ça. Je sais qu'il y a des gens qui sont contre. Mais ça permet aux personnes vaccinées d'avoir des activités. Puis ce que ça dit aux personnes non vaccinées, votre choix, c'est correct. Mais on ne veut pas que ces gens-là non vaccinés, d'une part, viennent contaminer d'autres personnes et d'autre part, viennent alourdir le système de santé. Parce qu'on ne se comptera pas d'histoire. Le vaccin, il n'est pas parfait, là. C'est pas 100%, puis il perd de l'efficacité au fil du temps, puis il est moins efficace aussi pour les personnes plus vulnérables. Mais les cas qui se retrouvent à l'hôpital, aux soins intensifs, ce sont les gens non vaccinés à la très grande majorité. La vraie question aussi qu'il faut se poser, c'est qu'on arrive à l'automne, c'est la reprise des activités normales. Je vais parler de l'école dans deux instants. C'est aussi, disons, une saison plus active de contact entre les humains. Et il y a tous les enjeux en milieu de travail. Est-ce qu'un employeur, parce que moi je peux télécharger l'application de vérification, est-ce que mon employeur pourrait exiger la double vaccination? Est-ce que je serais obligé de lui présenter ce passeport vaccinal? Si oui, pour quelle raison? Si je refuse, quelles sont les conséquences? Et là, vous entrez dans le monde du droit du travail et disons que c'est pas très clair. Il y a pas mal de questions qu'on peut poser. Et tout ça alors que, à Québec, on ouvre cette commission parlementaire demain sur justement la vaccination obligatoire des employés de l'État du secteur de la santé. Est-ce qu'on va l'élargir à l'éducation? Il y en a qui pensent que oui. Alors oui, il y a encore beaucoup d'enjeux. Et c'est sûr que l'automne va être une période bien importante. Puis on peut se le dire, le Québec, en termes de vaccination, atteint des niveaux exceptionnels quand on compare avec d'autres pays. Je pense que là-dessus, on peut être fier. Puis c'est vrai que les anti-vax se font entendre, là, et ils vont sans doute écœurer des restaurateurs, puis ils vont aller faire des manifs devant certains événements. Mais on s'entend-tu que la très grande majorité des gens ont compris l'importance de la vaccination et cet outil qui te permet d'avoir... Tu sais, tu n'as pas le goût de refermer les restaurants. Tu n'as pas le goût qu'on se ramasse encore comme l'année passée, puis d'être obligé de restreindre, puis de confiner, puis personne n'a envie de revivre ça. Et l'horizon, pour beaucoup de gens, là, c'est vraiment le printemps. Peut-être l'hiver un peu, mais écoutez le docteur Fauci aux États-Unis, il disait, si les gens sont vaccinés, puis les Américains, c'est loin d'être aussi populaires qu'ici, ben 2022, printemps, ça risque d'être, disons, appelons ça un objectif qui est réalisable. Alors ça, c'est le passeport vaccinal. Deuxièmement, l'école. Mieux vaut tard que jamais. Puis je voyais beaucoup de commentaires hier. Là, ça a le mérite d'être clair. Mais c'est inadmissible quand même qu'il ait fallu attendre à quelques jours d'une rentrée scolaire pour connaître les paramètres. Et je n'achète pas et je ne crois pas que la situation a changé en l'espace de deux semaines à ce point. Je ne crois pas ça une seconde. Je ne sais pas c'est quoi le tataouinage, mais de nous dire, voici pour ce qui est des écoles, dans presque tout le Québec, là, il y a des exceptions dans des zones où, disons, le nombre de cas est moins élevé, mais ça veut dire que port du masque en classe, vaccination aussi qu'on va pouvoir faire chez les jeunes, et ça va bien, là, chez les 12 ans, il n'y a pas de vaccin pour les moins de 12 ans. Les tests rapides. Les fameux tests rapides. Hier, Dr Quash, Caroline Quash, de Sainte-Justine, microbiologiste, parlait des purs et durs. La santé publique. Puis il y a des écoles de pensée en santé publique. T'entends à travers les branches que Montréal est assez raide. Mais là, tu dis, mais pourquoi il y avait ce refus? Pourquoi le docteur Arruda refusait le port du masque? En disant quoi? On va arrêter de se laver les mains parce qu'on porte un masque? Contre les tests rapides qu'on a stockés dans les entrepôts? Cadeau du fédéral? Parce que c'est pas aussi efficace que les autres tests? Tu dis, mais c'est quoi? Là, finalement, ça, c'est bon. Finalement, on va s'en servir dans les écoles. On va même en donner aux enfants pour qu'ils ramènent ça à la maison, le cas échéant. Et je sais, c'est vrai qu'il fait chaud, puis il va faire encore chaud la semaine prochaine, puis là, le gouvernement a dit, il y a une question de jugement. On ne demandera pas au personnel pour aux enfants de porter des masques dans le cadre de journées suffocantes. Mais la question de la qualité de l'air est pratiquement pas abordé. Les unités de mesure. Comment on a travaillé ça cet été? Quels sont les chantiers qu'on a mis en place? C'est quoi le calendrier? Seul ministre Roberge est assez muet sur la question. Alors, il y a bien des parents qui sont heureux de voir que l'enfant va porter un masque, qu'il va y avoir ses tests rapides. D'autres sont furieux. J'ai des profs qui m'écrivent depuis hier. Et là, l'autre question, ce sera la vaccination obligatoire du personnel en éducation. C'est sûr qu'on va l'aborder des travaux de la commission parlementaire jeudi et vendredi. Juste pour compléter le dossier en éducation, des questions des auditeurs, est-ce qu'il pourrait y avoir encore une fois des classes qui ferment, des quarantaines? La réponse, c'est sûr que c'est oui. Possiblement beaucoup moins que ce qu'on a connu, parce que notamment chez les ados, là, je regardais le taux de vaccination, c'est 77%. On a bien chialé contre les ados en disant ils traînent les pieds, ils veulent pas se faire vacciner. Ils ont compris une chose, ils ont envie de sortir, ils ont envie d'avoir des activités, ils ont envie d'aller au resto, aller dans les bars pour peut-être les 17 ans, là, si on tourne les coins un peu ronds. Mais tout ça parce que je pense qu'ils sont conscients, il y a bien des parents qui m'ont écrit que le passeport vaccinal, cette possibilité avec la double vaccination d'avoir une vie presque normale, ou en tout cas relativement normale, ça en a stimulé plusieurs. Et donc, ça devrait donner des résultats concrets. Et quel type d'enseignement des enfants confinés vont avoir, ou en quarantaine? Ce sera un plan fait par le professeur qui devra, semble-t-il, s'assurer d'un suivi au quotidien. Et dernier mot là-dessus, pour vous dire que selon un sondage qui a été fait par l'Institut national de santé publique du Québec qu'on retrouve dans la presse de ce matin, semble-t-il que les Québécois sont moins optimistes. À la fin du mois de juin, la question était la suivante. Avez-vous l'impression qu'on va reprendre une vie normale en 2021, après 18 mois de pandémie? Alors, donc, à la fin du mois de juin, 58% des Québécois étaient assez optimistes. À la fin, en fait, début du mois d'août, là, jusqu'à tout récemment, c'est passé à 37%. C'est comme si les gens, voyant le variant Delta, voyant la situation dans d'autres pays, le nombre de cas qui augmente, puis on est bien loin là, de la situation des premières vagues, deuxième vague, troisième vague, mais ça préoccupe. Et je sens ça aussi beaucoup dans les courriels que vous m'envoyez. Voilà pour ce qui est du dossier scolaire, du dossier également passeport vaccinal. On va parler avec le directeur du SPVM, Sylvain Caron, un peu plus tard ce matin. Il y a eu un point de presse en catastrophe hier, 8h30, au sujet de ces coups de feu qui ont été tirés au CUSUM. Il n'y a pas beaucoup d'informations. Deux patrouilleurs, un homme et une femme, sortent du CUSUM et détonation et la policière sent une brûlure. Elle a été touchée légèrement, mais de toute évidence, ces deux policiers-là étaient ciblés. Pour quelles raisons? On ne le sait pas. Et c'est toujours la même question. Les deux policiers sur le plan personnel ou encore l'institution, le symbole. On a vu cette policière en Beauce qui a été tirée par un gars qui haït la police. Et c'est pas elle qui était la personne vraiment visée, c'est l'uniforme qu'elle portait. Est-ce que c'est le cas pour les deux policiers de Montréal? On ne le sait pas. Quelles sont les infos? Est-ce que c'est relié à des opérations qui ont eu lieu il y a quelques heures avant ou encore dans les jours précédents, des fois quelqu'un qui veut se venger, ou c'est carrément quelqu'un, puis on l'a vu dans certaines villes aux États-Unis il n'y a pas si longtemps, alors qu'on tirait sur des voitures de police, puis qu'on tirait en direction des policiers. Alors on va pouvoir lui parler ce matin et faire le point là-dessus. Parlons de la situation en Afghanistan. Vous dire que les talibans répètent le même discours. Les Afghans ne sont pas autorisés à se rendre à l'aéroport. Donc, ceux et celles qui se cachent, et il y en a beaucoup, dans des maisons, cachés à l'extérieur, aussi dans des zones un peu montagneuses et qui espèrent réussir à se faufiler vers l'aéroport de Kaboul pour être capables de partir. Et là, on peut penser à tous ces Afghans qui ont travaillé avec les Occidentaux. Je donnais le cas hier d'un Afghan canadien avec sa femme, son enfant, des membres de sa famille rapprochée, qui souhaite venir s'établir au Canada. Là, on a pu voir environ 500 personnes être évacuées par un avion des Forces armées canadiennes. Mais ce qui est clair pour les talibans, il y a deux choses. La première, T'es afghan, tu restes ici, tu seras pas un réfugié, tu ne peux pas partir. Et la date butoir, c'est le 31 août. Le président Biden a dit hier, on pense être capable. Mais c'est pas si simple que ça, là. À quel moment t'arrêtes ces opérations de rapatriement quand vient le moment de quitter pour le 31 août? Fabrice de Pierrebourg va regarder ça avec nous ce matin. Donc, il semble que malgré tout, la vie, d'après les correspondants qui sont sur place, fonctionne relativement normalement. Beaucoup de commerces sont ouverts. Et là, il y a ce discours des talibans, je dirais, inclusif, que l'on souhaite diffuser à travers le monde en disant nous sommes fort différents des talibans d'il y a 20 ans. Et on est moins radicaux. Quoique, une fois que les étrangers ont quitté, puis que le pays se referme, on peut présumer de ce qui va se passer avec les femmes, principalement. T'sais, ils sont fiers de nous dire on va leur permettre d'aller à l'école jusqu'à 12 ans. Alors que des femmes, des jeunes femmes, vivaient cette liberté inconnue depuis les dernières années. Puis là, on les reconfine, c'est le cas de le dire. Un mot sur la campagne électorale. Quelqu'un me faisait une réflexion hier. On n'est pas si intéressé par ce qui se passe. Cette campagne-là débute, mais en même temps, on doit être intéressé un peu parce qu'il y a des variations dans les sondages. Donc, ça veut dire que l'opinion publique bouge. Hier, M. Trudeau a annoncé des politiques en matière d'habitation et donc aider les familles à acheter une première maison et créer un fonds spécial. Là, il y a tout un débat là-dessus. Pierre-Yves est assez grimpé, là. Considère que sur le plan de l'équité fiscale, ça ne marche pas. Oui, il faut donner accès à la propriété. Oui, il y a une flambée des prix. Mais comment des gens, des jeunes qui veulent acheter une première maison, comment des gens qui ont de la difficulté à trouver des logements à un prix abordable, à un prix réaliste, vont faire? Alors, Pierre-Yves pense que, dans le cas de M. Trudeau, c'est une plateforme là, qui ne fonctionne pas, puis il y a beaucoup de critiques. Il y a des gens qui s'attendaient à... Puis là, il y a comme deux courants. Là. Tu sais, le premier courant qui dit l'État doit fournir des logements abordables. Puis tu as l'autre courant qui dit l'État doit mettre en place des mécanismes fiscaux qui permettent aux gens d'avoir accès. Ça peut se combiner, puis c'est parfois aussi en parallèle. Ça, c'est du côté des libéraux. L'autre sortie qui m'a fait hier sursauter, Yves-François Blanchet, le chef du Bloc. Tu dis, ancien ministre de l'Environnement, M. Blanchet se dit convaincu que le projet du troisième lien à Québec, de 10 milliards là, entre Lévis et Québec, peut être écologique. Quand la CAQ dit ça, on sourit. Vous savez, parce que c'est pas si tu fais un tunnel avec une voie réservée aux autobus que ça devient un projet écologique. Un tunnel n'est pas un projet écologique. On peut bien y donner une petite couche de verre, là, mais c'est un peu... ça passe pas, tu sais. Alors, il dit, je vais vous faire une confidence, je le cite, j'aurais aimé ça être dans le projet et qu'on me demande si je suis capable de rendre ça le plus écologique possible parce que je suis convaincu que ça peut l'être et qu'on est conscient d'un projet, un potentiel positif en termes d'environnement. Évidemment, il fait ce point de presse-là à Québec, à Pont-Rouge. Et de deux choses l'une, où il croit ça, ou encore, c'est un autre truc de séduction. Moi, qu'un ancien ministre de l'Environnement m'explique qu'un tunnel... Viens me dire que tu es d'accord avec le projet, que tu défends ça au nom de la banlieue de Québec, puis t'espères aller faire des gains dans la banlieue de Québec. Comme on dit, fair enough. Mais de faire passer ça pour un projet potentiellement vert, disons que c'est pas mal dur à croire, c'est pas, disons, très, très convaincant. Également, ce matin... Je pense qu'il y a une nouvelle qui est majeure, une nouvelle importante, c'est la nomination hier de France-Margaret Bélanger, présidente de sport et divertissement pour le groupe CH. Le CH, bon, c'est le Canadien de Montréal, mais c'est aussi Evenco, c'est l'équipe Spectra. Et elle sera donc la première femme dans une organisation assez traditionnaliste. C'est le Canadien de Montréal, c'est pas l'organisation qui innove le plus. Mais on voit de plus en plus de femmes qui accèdent à des fonctions importantes dans des équipes sportives. Là. Puis pas juste là au marketing, là, mais dans la gestion de l'équipe, dans des postes de direction générale. Alors elle, va s'occuper de tout ce qui est vente, justement marketing du Canadien. C'est Jeff Molson qui va gérer Bergevin, les opérations hockey. Mais Mme Bélanger va donc s'occuper de tout ce qui est Evenco, Spectra. Elle sera avec nous ce matin. Puis on l'a vu faire des sorties, notamment sur les politiques de santé publique, pour essayer de remplir le Centre Bell pendant les séries de fin de saison. Puis on vous reparlera de Charlie Watts, des Rolling Stones, qui est décédé.
L'essentiel de Paul Arcan.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan.
Alors, parlons passeport vaccinal. D'ailleurs, si vous avez Apple comme plateforme pour votre téléphone intelligent, c'est disponible maintenant. Pour ce qui est d'Android, c'est dans quelques jours, nous dit-on. Et c'est extrêmement facile d'aller le chercher. Et en quelques minutes, vous avez votre passeport vaccinal. Évidemment, il y a beaucoup de questions. Les auditeurs, propriétaires de restos qui m'envoient des courriels à la tonne, ont fait le point avec le ministre de la Santé, Christian Dubé. Monsieur Dubé, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
D'abord, la première question là, qui revient, les gens qui n'ont pas de téléphone intelligent, à quel moment la preuve papier va être disponible?
Ben, elle est disponible immédiatement parce qu'on peut aller, les gens peuvent aller sur le site de Québec.ca et d'aller prendre la preuve. Ils peuvent aussi appeler au numéro 1-877. Alors, il y a plusieurs façons de l'avoir papier. Puis même s'ils le demandent, on va envoyer une espèce de format portefeuille que je pourrais appeler le format carte d'affaires que les gens peuvent même plastifier puis mettre avec eux pour avoir une preuve papier s'ils n'ont pas de téléphone intelligent.
OK. L'autre question. Si, quand je me présente avec mon passeport vaccinal, j'ai besoin d'une autre pièce d'identité avec photo.
Oh oui, tout à fait. C'est un peu comme quand vous avez votre carte d'embarquement, vous présentez votre carte d'embarquement et votre passeport. Ben, c'est le même principe.
OK. Les touristes vont faire quoi? Il y a des restaurateurs qui m'écrivent en disant, là, on a des Américains qui arrivent. Est-ce qu'on va gérer ça de la même façon que les Québécois? Ou encore les Ontariens? Ou
Très simple. La minute que un touriste là, qui est à l'extérieur du Québec, là, même si c'est un Ontarien, autant que l'adresse soit pas au Québec, la preuve d'une adresse hors Québec est la preuve suffisante avec la vaccination. Donc, quelqu'un qui arrive de l'Ontario va montrer son permis de conduire de l'Ontario, va montrer qu'il est doublement vacciné avec sa preuve à lui et il pourra rentrer au restaurant aussi simple que ça.
Il y a des restaurateurs qui trouvent ça compliqué à gérer, là, c'est-à-dire de filtrer, d'avoir un registre des gens qui sont au restaurant. Puis en même temps, ils s'attendaient aussi à avoir un certain assouplissement, accueillir plus de clients. Pourquoi c'est pas permis? Plus de clients? Puis eux trouvent que c'est compliqué.
Bon, écoutez, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait des pilotes, là, puis je suis allé sur place quelques fois. Et c'est évident qu'on vise à avoir des assouplissements, mais on ne les fera pas dans les premières semaines. J'en ai discuté avec plusieurs restaurateurs, là, parce que vous savez, tout arrive en même temps. Hein. Il y a le retour en classe, retour au travail. Donc, puis avec le Delta, faut faire attention de faire un retour graduel. Alors, autant pour le registre des clients, autant pour la distanciation dans les restaurants. Moi, je demande encore une fois aux restaurateurs, aux opérateurs de bars et de gym, oui, il y aura des assouplissements, mais passons les premières semaines, le mois de septembre, voir comment on va être capable de continuer à contrôler cette quatrième vague-là, puis les assouplissements viendront par la suite.
L'autre question, parce que ce passeport est conçu pour les activités jugées non essentielles. Puis on ne fera pas un débat ce matin là, sur c'est essentiel, pas essentiel. Mais est-ce que vous pourriez élargir la vocation du passeport, par exemple, dans le monde du travail?
Écoutez, pas pour le moment, puis je vais vous dire pourquoi c'est délicat, là, parce que c'est pas prévu pour le moment. Par contre, puis je pense que mon collègue Jean Boulay pourrait être probablement bien interviewé là-dessus, mais je vais vous le résumer. Le lieu de travail, c'est quelque chose qui relève de la gestion de l'employeur et du code du travail. On s'entend? Ici, là, on ne parle pas, le passeport vaccinal n'est pas fait pour déterminer le droit au travail. En fait, lorsqu'on va émettre là, dans les prochaines heures l'avis de la santé publique qui, elle, recommande qu'on soit en présentiel maintenant, c'est une recommandation. Donc, on peut délaisser tranquillement le télétravail pour ceux qui le veulent. Alors, il faut laisser aux employeurs et aux employés, pour ceux qui veulent revenir en présence, qui sont doublement vaccinés, le choix de revenir. Mais le passeport vaccinal n'a pas été fait pour ça.
Ouais,
c'est
mais
un droit de gestion. Pardon?
Non, je comprends ce que vous me dites, mais en même temps, vous êtes l'employeur, le gouvernement, puis vous imposez la vaccination aux employés de la santé, puis peut-être à d'autres groupes de l'État. Moi, je suis l'employeur, puis j'ai la patate chaude pour gérer ça, là.
Oui, mais effectivement, pour venir, là, chaque emploi est un cas d'espèce. Vous savez, M. Arcan, je ne peux pas traiter un gardien de prison puis quelqu'un qui vient travailler au bureau. La définition de la tâche, la gestion de l'employeur, chaque cas est un cas d'espèce. Alors, nous, ce qu'on va faire, puis j'en ai parlé beaucoup avec Mme Lebel. Mme Lebel, elle a pris la décision pour le Trésor, pour les gens de la fonction publique, de retarder, par exemple, pour une foule de raisons, de retarder le retour en présence d'un mois. Bon, maintenant, un autre employeur qui a peut-être moins de difficultés ou qui veut absolument que ses employés reviennent en présentiel, ben lui peut dire, ben écoutez, je vais vous donner la flexibilité de rester en télétravail, mais pour ceux qui veulent revenir, donc c'est volontaire, ils vont pouvoir revenir sur place. Alors, il faut donner cette flexibilité-là. Puis encore une fois, M. Arcan, il faut laisser passer le mois de septembre. Là. On va avoir un mois qui va être difficile. Je vous le dis, ce matin, on va annoncer 550 cas hier. Là. Alors, donc, c'est encore difficile. Alors, il faut faire attention que le retour se fasse de façon graduelle. On l'a vu, il faut suivre ça de très près. Le variant, il est très, très fort en ce moment. Okay. Je le dis souvent, là, mais
vous dites 550 cas. J'aimerais avoir la déclinaison. Beaucoup d'auditeurs me demandent ça. Il y en a combien sur les 550 là, qui ne sont pas vaccinés?
Ben écoutez, ça varie. Quand on dit vacciné, je dirais non adéquatement vacciné.
Okay, qui n'ont pas les deux doses. Là.
Qui n'ont pas les deux doses. Ben écoutez, là, ça tourne aux alentours de 85%. Et je vous dirais, là, ce matin, j'en ai sur les 19 qui sont rentrés à l'hôpital. Donc, je vais avoir 550 cas qu'on va annoncer tout à l'heure. J'en ai 19 là-dessus qui sont rentrés à l'hôpital. Il y en a 90% qui sont non vaccinés.
C'est assez clair comme...
C'est assez clair. Alors, c'est pour ça qu'en ce moment, on met beaucoup d'emphase sur continuer à vous faire vacciner. C'est assez incroyable. On se rapproche de 80. On a atteint 86%. Je pense qu'avec les derniers jours, on va se rapprocher. On va monter encore de 1 ou 2%. Et je le répète, aujourd'hui, il y a 19 personnes qui sont rentrées à l'hôpital. C'est 19 personnes qui ne nous permettent pas de faire du rattrapage de chirurgie. C'est ça que les gens ont compris. Là.
Je reviens encore sur les modalités parce que les auditeurs se disent « Parfait, je vais au restaurant, j'ai mon passeport, j'ai ma pièce additionnelle. Je rentre dans le restaurant, mais je peux avoir un paquet d'employés pas vaccinés, un employé qui a... Donc, je suis doublement vacciné pour limiter la propagation dans un milieu de travail qui peut compter X nombre de personnes pas du tout vaccinées. »
Oui. Écoutez, ouais.
C'est un peu bizarre.
Ben écoutez, on en a déjà discuté, vous et moi, je vais vous donner... Mais c'est important de revenir parce que il faut comprendre que les environnements de travail sont très différents. Prenons la santé, puis on reviendra au restaurant. Pour la santé, et c'est pour ça qu'on écoute la recommandation de la santé publique qu'on va en commission demain, les gens qui travaillent en santé travaillent avec des personnes qui sont très vulnérables. OK? Alors donc, on sent, nous, puis on est d'accord avec la santé publique, qu'on a besoin d'exiger plus, qu'on a besoin d'exiger la vaccination obligatoire. Vous êtes dans un restaurant, c'est pas la même vulnérabilité. Vous avez des gens qu'on va laisser rentrer, qui sont doublement vaccinés, qui sont déjà très protégés. Alors, si, étant donné les limitations qu'on a en ce moment avec le code du travail que j'expliquais tout à l'heure, ben, je suis obligé de me limiter en ce moment, je dis bien, en ce moment, aux mesures sanitaires, par exemple, port du masque, distanciation, que les employés vont faire. ne peux pas avoir les mêmes exigences en raison du degré de vulnérabilité ou du risque que les gens ont. Et quand on parlait à des experts en droit du travail, ce degré de risque-là est un élément excessivement important. Donc, c'est pour ça qu'on commence avec les employés de la santé. Puis j'espère que dans les prochaines semaines, ben, on aura un meilleur contrôle sur la quatrième vague, puis que nos mesures sanitaires seront suffisantes.
OK, est-ce qu'on va voir. Est-ce qu'on s'en va vers la vaccination obligatoire du personnel enseignant?
Ben écoutez, c'est la même discussion, puisque je suis content de voir, puis j'ai compris que en commission, il y a quand même plusieurs invités. Là, vous avez vu, j'ai une liste assez complète là, que les leaders ont convenu. Il va y avoir des discussions là-dessus. L'objectif premier pour nous était d'avoir une bonne discussion sur les employés de la santé, parce qu'on touche à l'intégrité physique de la personne. Mais je vous dirais, si la discussion peut porter là-dessus, on pourra avoir un débat. C'est un débat de société qui est très important, selon moi.
OK. Êtes-vous en train de plancher sur la troisième dose? Quand on voit les données sur, avec le temps, le vaccin qui perd un peu d'efficacité, le variant. Bref, est-ce qu'on se prépare là, avec vos collègues à la vaccination, la troisième dose?
Ben, il faut toujours être prêt. J'ai toujours dit qu'il fallait toujours être un petit peu en avant de la parade. Mais j'aimerais ça peut-être prendre quelques secondes pour commenter sur ces résultats-là. Effectivement, là, il y a des études qui montrent aux États-Unis puis en Angleterre que peut-être il y a un ralentissement de l'efficacité du vaccin après 3, 4, 5 mois. Mais en même temps, ces deux pays-là ont fait l'intervalle minimum entre les deux doses. Puis rappelez-vous, nous, au Québec, parce qu'on manquait de vaccins, grâce à une bonne recommandation de la santé publique, on a mis un intervalle au début qui était de 16 semaines. Cet intervalle-là peut faire une grande différence dans l'efficacité du vaccin. Alors moi, j'ai hâte de voir chez nous comment on va s'en sortir, parce qu'on croit, puis on va pouvoir en discuter encore avant de considérer la troisième dose. Quelle est justement, chez nous, l'efficacité des vaccins, parce qu'on avait rallongé l'intervalle, ce qui permettait au système immunitaire de performer encore plus et de recevoir la deuxième dose au meilleur moment. Alors ça, c'est quelque chose qui est intéressant de la façon dont la santé publique a géré ça.
OK. La question de la confidentialité en terminant, là. Vous nous garantissez que les infos qui sont dans le passeport, c'est le nom de la personne puis la confirmation donc qu'elle a été vaccinée deux fois, qu'il n'y a pas d'autres infos, c'est impossible de télécharger ça. Vous ne serez pas hacké, là.
Ben écoutez, ben, premièrement, je vous dis, on a regardé ça de tous les côtés. On a fait rentrer nos groupes de cybersécurité du gouvernement. On a eu des firmes extérieures qui sont venues revisiter ça. Écoutez, je pense qu'on est en très bonne situation avec l'application. Ce sont des standards internationaux. On est allé regarder ce qui se faisait de mieux dans le monde. Ce que je comprends, c'est que de plus en plus, le fédéral veut venir chercher notre système parce qu'il voudrait gagner du temps sur une application qui serait transcanadienne. Je pense qu'on a fait nos devoirs et que les gens doivent se sentir en confiance, là. Puis je dois féliciter nos équipes informatiques. C'est la première application du réseau de la santé pour être capable de donner un bon service à la clientèle. Puis je peux vous dire, M. Arcand, c'est pas la dernière.
Docteur Arruda, est-ce qu'il pense vraiment que 95% du monde va se faire vacciner? Ou c'est un fantasme, un rêve?
Ben écoutez, je pense qu'il a dit que c'était son souhait. Je crois que c'est à nous d'opérer la meilleure campagne de vaccination. Il a bien dit aussi qu'on avait la meilleure...
Mais 95, alors, ça a fait jumper le monde, là. C'est-à-dire qu'on se dit, hey, wow, là, il n'y a pas un pays
dans le monde. Je pense qu'il faut réaliser que les gens ont fait des efforts incroyables à date au Québec. Moi, en tout cas, je les remercie parce qu'on serait pas là, on serait pas capable d'avoir un passeport vaccinal. Fait que continuons de travailler du côté positif. Puis ceux qui sont pas encore allés vacciner, ben c'est le temps d'y réfléchir parce que ça peut faire une différence dans les prochaines semaines, particulièrement dans le mois de septembre. On a besoin que le plus de personnes possibles puissent y aller.
Monsieur Dubé, merci. Bonne journée.
Bonne journée.
Au revoir, Christian Dubé, le ministre de la Santé et des Services sociaux.
L'essentiel de Paul Arcand.
Maintenant, on revient sur ces événements dans la nuit précédente au CUSUM, Centre hospitalier l'Université McGill à Montréal, alors que des coups de feu ont été entendus. Et on a compris hier soir que deux policiers du SPVM, un homme et une femme, ont été donc la cible de Ses coups de feu. Le directeur est avec nous, Sylvain Caron. Monsieur Caron, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
Qu'est-ce qui vous fait dire que les policiers étaient ciblés?
Évidemment, les expertises et l'analyse de la scène qui a été effectuée au cours de la journée, depuis les événements hier dans la journée. Alors, en fin de journée, j'ai reçu des confirmations des expertises qu'il y avait des projectiles puis des impacts de balles, évidemment, qui étaient à proximité des policiers. Puis une policière a quand même eu une blessure mineure à un bras. Alors, toutes les circonstances nous amènent à croire, évidemment, à conclure que nos policiers étaient la cible de cette personne-là ou de ces personnes-là.
Est-ce que vous êtes en mesure de dire combien de coups de feu ont été tirés?
Mais pour le moment, on n'est pas en mesure de préciser le nombre. Tout ce qu'on sait actuellement, c'est qu'on a au moins un projectile de trouver puis deux impacts d'identifier sur la scène. Alors, les expertises se sont poursuivies jusqu'à tard cette nuit. La scène est élevée vers 1h ce matin. Alors, on a terminé l'analyse de la scène au complet, puis nos enquêteurs travaillent encore à poursuivre cette enquête-là.
OK. La grande question, et je comprends que vous n'avez pas la réponse, est-ce que ce sont ces policiers personnellement qui étaient visés ou c'est l'image, c'est l'institution qui était visée?
Mais clairement, l'enquête va nous le déterminer. On aimerait évidemment avoir des conclusions rapides, tout le monde, et dans l'incertitude et dans l'inconnu actuellement. Alors, ce qu'on souhaite, c'est de conclure évidemment avec les faits exacts. Alors, l'enquête va nous permettre, toutes les hypothèses sont sur la table actuellement, les regarder. C'est-tu ces policiers-là? C'est-tu l'institution? C'est-tu d'autres policiers? Parce qu'on avait d'autres événements en cause sur le territoire, puis il y avait d'autres policiers à l'intérieur du centre hospitalier. Alors, tout est regardé actuellement par les enquêteurs.
Est-ce que c'est vrai qu'à l'intérieur, là, dans les moments qui ont suivi, les policiers se sont déployés, puis on a, par exemple, déplacé les gens qui étaient à l'urgence, on a demandé au personnel de changer de local. Est-ce qu'il y a eu ce genre d'opération sur le terrain?
Bien, tout à fait, parce que la sécurité, évidemment, du centre hospitalier a été témoin également. Ce sont partie des gens qui ont été rencontrés par les enquêtes. Alors, immédiatement, le centre hospitalier a pris des mesures pour l'intérieur du centre hospitalier pour protéger l'ensemble du personnel et des usagers, parce qu'on ne savait pas à quoi on faisait face actuellement quand l'événement est survenu dans la nuit de lundi à mardi.
Il y a eu cette policière de la Sûreté du Québec. Elle, c'est carrément un geste contre la police, là, contre l'institution. Vous avez dit hier, c'est inadmissible, puis c'est en même temps extrêmement préoccupant. Et pas juste l'événement au Cusum, là, mais les événements des coups de feu, là, à répétition depuis les derniers mois.
Bien, c'est préoccupant parce qu'encore une fois, c'est une arme à feu. Puis je veux pas conclure, évidemment, au moment où on se parle, parce que, évidemment, on connaît pas l'auteur ou les auteurs. Alors, il faut pas faire un amalgame avec tout ce qui se passe sur le territoire. Alors, par contre, c'est encore une arme à feu qui est utilisée. Alors, l'utilisation de l'arme, on le voit, évidemment, sur le territoire est de plus en plus utilisée. Alors, c'est comme si on est dans une période où c'est banalisé l'utilisation d'une arme à feu dans le milieu. Alors, les actions qu'on a prises récemment pour restreindre puis évidemment combattre ce fléau-là va nous permettre évidemment de retrouver une certaine accalmie sur le territoire.
Parce que c'est sûr que on veut pas faire d'amalgame, mais en même temps, il y a un certain sentiment qui s'installe dans la population. Tu dis, il y a des gens qui prennent des armes, qui envoient des rafales en plein jour sur des immeubles, tirent sur des autos. Là, on tire sur la police qui est dans l'entrée de salle d'urgence d'un hôpital. Là, on n'est pas là, dans des règlements de compte à 4 heures du matin dans une ruelle, là, perdu.
Bien, tout à fait. Puis ce qui nous préoccupe, évidemment, c'est un geste gratuit. Nos policiers n'ont pas eu d'interaction avec personne. Ils sortent du centre hospitalier, puis on se retrouve face à des tirs. Alors, c'est un acte complètement gratuit qu'on peut penser qui vise l'institution, mais ça pourrait être aussi en lien avec des événements précédents ou antérieurs. Alors, c'est pour ça qu'on regarde toutes les hypothèses actuellement.
La policière, c'est blessure superficielle, je pense, hein?
Oui, blessure superficielle à un bras et évidemment, les deux policières prennent du repos. Je vais les rencontrer au cours des prochaines heures. Hier, ils ont eu quand même une journée importante avec les enquêteurs, le temps de rencontrer l'ensemble des enquêtes pour permettre de faire avancer le dossier. Alors, on les laisse reposer puis je vais les rencontrer au cours des prochaines heures.
Merci, M. Caron.
Bonne journée, M. Arcan.
Au revoir. Sylvain Caron est le directeur du SPVM.
L'essentiel de Paul Arcan.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Nouvelle importante pour plusieurs raisons hier du côté du groupe CH, alors qu'on a appris la nomination comme présidente de Mme France-Margaret Bélanger, qui était déjà là dans l'organisation. Et là, ce qu'on comprend, c'est qu'elle va s'occuper, pas des opérations hockey, là, ça demeure Molson, ça demeure Bergevin, mais de tout ce qui chapeaute le reste.
Oui, présidente sport et divertissement du groupe CH, et je dirais que ça s'inscrit un peu dans une tendance. Là. On voit ça de plus en plus au sein des organisations sportives, on engage de plus en plus de femmes, que ce soit au niveau administratif ou même au niveau sportif. Là, les Marlins de la Floride au baseball ont une directeur-gérante, là, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais c'est une femme là, qui dirige les opérations baseball. Les Maple Leafs de Toronto en ont engagé également à des postes importants. Basketball, il y en a également dans la NBA. Alors, c'est une tendance. Là, il y a de plus en plus de femmes dans le monde du sport, que ce soit au niveau sportif ou administratif. Là.
Elle est avec nous ce matin. Bonjour, Mme Bélanger.
Bonjour, M. Arcand.
Une première question toute simple. Quand j'ai vu la nomination hier, je me suis dit, mais pourquoi ça n'inclut pas la responsabilité du Canadien? Pourquoi Marc Bergevin ne relève pas de vous?
Ah, c'est une excellente question. Mais écoutez, le Canadien, notre président demeure Jeff Molson, qui est notre propriétaire, que vous connaissez bien sûr. Et c'est lui qui assure la direction hockey. Donc, Marc relève toujours et encore directement de Jeff.
Bien, je ferai du millage un peu là-dessus, Mme Bélanger, en vous demandant, est-ce que c'est pas la prochaine étape chez le Canadien d'avoir des femmes au niveau sportif, au niveau hockey, là, comme on en voit de plus en plus dans le monde du sport?
Bien, vous avez raison. En fait, vous faisiez état de Kim Heng qui est avec les Marlins, puis il y a énormément de femmes qui prennent des postes. Pas du côté administratif, je pense que ça fait longtemps que côté administration, il y en a, mais du côté vraiment opération professionnelle, que ce soit hockey ou football, il y en a quand même beaucoup. C'est pas mon champ d'expertise, mais moi, je vous dis que j'accueillerais avec beaucoup de joie si on pouvait se rendre là. Mais écoutez, c'est sûr qu'on a des réflexions dans ce sens-là, puis on va voir où ça nous mène, mais encore une fois, c'est Marc et Jeff qui vont décider de ça.
OK, c'est quand même, quand on parle du groupe CH, bon, tout le monde pense aux Canadiens, mais c'est aussi Evenco, c'est l'équipe Spectra, c'est le Centre Bell, non seulement comme amphithéâtre de hockey, mais comme salle de spectacle. Ça veut dire que vous êtes à la tête d'une organisation, je dirais, très importante, pour ne pas dire puissante à Montréal dans le domaine du spectacle.
Oui, en effet, on pense souvent aux Canadiens, mais le groupe CH, c'est sûr que c'est tous les aspects de divertissement, et vous le notez bien là, avec Evenco et Spectra, puis un très grand nombre de spectacles. Puis aussi, il y a d'autres salles, bien sûr, où est-ce que soit on est propriétaire, on a la gestion exclusive. Alors oui, c'est quand même très important au niveau spectacle.
OK. Là, on a compris que par les gestes que vous avez posés, notamment le printemps dernier, là, vous n'êtes pas le genre de personne à hésiter pour mettre de la pression, par exemple, sur la santé publique, pour dire « j'aimerais ça rentrer plus de monde dans le Centre Bell ».
Ben, écoutez, c'était assez unique qu'est-ce qui se passait à Montréal là au printemps dernier puis à l'été avec notre parcours en série éliminatoire. Pas comme ça. Alors, c'est sûr qu'on aurait souhaité avoir plus de personnes. Puis, on était en conversation avec les gens du ministère de la Santé puis de la Santé publique. On a toujours eu une collaboration. Ça pouvait sembler comme de quoi on prenait une position quand même en discussion avec eux, là, ma foi, presque quotidiennement sur ces sujets-là. Mais enfin, on a gardé les capacités qu'on avait. On n'a pas pu augmenter à 10 500, ce qui était notre demande de l'époque. Et puis, on le dit toujours, ce qui est important, c'est la sécurité des gens, de nos partisans, de nos employés. Alors, on suit et on va continuer de suivre les conseils de la santé physique et du gouvernement.
OK. Êtes-vous confortable? Puis, en fait, quelle est votre réaction, un, au passeport vaccinal et deux, au fait qu'il n'y a pas d'assouplissement aux règles sanitaires? Autrement dit, vous ne pourrez pas rentrer plus de monde, mais vous allez devoir valider quand même le passeport vaccinal.
Oui, c'est sûr. Écoutez, passeport vaccinal, nous, on est une organisation qui accueille des millions de personnes là en temps normaux, là, comme vous l'évoquiez plus tôt. Alors, c'est certain que le passeport vaccinal, on doit passer par là. Puis, au 1er septembre, on a entendu M. Dubé à votre antenne tout à l'heure, on va y aller vers le passeport vaccinal. Nous, on accueille ça. On va s'assurer, bien sûr, de respecter ça. On fait partie des événements non essentiels. Alors, c'est sûr qu'on va mettre ça de l'avant. Et on va prendre ça avec grand sérieux. Nous, on a la responsabilité d'offrir un environnement sécuritaire pour nos visiteurs, puis on va vraiment aller de l'avant avec ça. On aurait souhaité qu'avec le passeport vaccinal, on puisse compter sur certains assouplissements. On l'a vu dans d'autres provinces, on a vu les Leafs, on a vu Winnipeg, on a vu, ma foi, Calgary, Vancouver et Edmonton, qui souhaitent aller à pleine capacité en exigeant preuve de vaccination ou encore un test négatif des gens qui assisteront aux événements. Mais on n'est pas là au Québec. Au Québec, ce sera pour l'instant 7500, puis on va se conformer à ça.
OK.
OK, donc au moment où on se parle, ça va ressembler à ce qu'on a vu en finale de la Coupe Stanley là, pour la rentrée du mois d'octobre.
En fait, selon les règles de la santé publique en vigueur à l'heure actuelle, pour les rassemblements intérieurs, dans des arénas comme le nôtre, qui a beaucoup d'espace, c'est 7500 personnes avec une distanciation, je crois, d'un mètre entre chaque personne. Alors, c'est plus qu'on avait durant l'été. Durant l'été, on était à 5000.
OK, je sais que le volet marketing fait partie de votre juridiction. Je vais vous parler de la pub sur les chandails. Là. On va-tu retrouver avec des pizzas? On va-tu retrouver avec une pub, deux pubs, trois pubs? C'est quoi le plan de match?
Ben écoutez, vous avez vu ça bien sûr dans les journaux parce que ça a été révélé. Alors oui, on regarde ça. C'est pas pour tout de suite. Ça sera dans quelques années. Puis il faudrait que ce soit fait avec goût, bien sûr. Mais dans le moment, c'est encore un projet qui est à l'étude. Là, ça commence pas cette année. Puis si ça devait aller de l'avant, ça va être quelque chose qui va être. Ça sera pas de la pizza pour reprendre votre exemple. On va tenter d'y aller avec quelque chose d'un peu plus. Plus élégant que ça, on l'espère. Donc, c'est certain qu'on va aller de l'avant avec quelque chose qui, si on va de l'avant, avec quelque chose qui serait élégant, puis ce serait un logo. Ce serait pas une multitude de logos.
J'ai envie de vous poser une question qui va être un commentaire en même temps. C'est-à-dire que le Canadien nous apparaît comme une organisation conservatrice. Pas une organisation là, qui a tendance à innover beaucoup. Le fait de vous nommer justement à ce poste clé, ça surprend un peu. Je sais que vous aviez un rôle majeur avant, puis que vous êtes là depuis plusieurs années. Mais est-ce que le Canadien de Montréal est en train de se dépoussiérer un peu?
Ben écoutez, moi je suis là depuis 2013, puis je vous dirais que j'ai pas trouvé ça poussiéreux là depuis que je suis là, pour reprendre l'expression. Je pense que, en tout cas, en ce qui concerne mon rôle ou le rôle, vous savez, il y a plusieurs femmes au niveau administratif dans le groupe CH, là, puis on ose croire que tout le monde est là, tout le monde est compétent. Puis, j'ai pas cette impression-là. Je vous dirais que ce soit M. Molson ou moi ou les autres qui m'entourent, on fait confiance aux gens qui sont capables de livrer la marchandise, les gens qui présentent, on espère, la compétence. Puis, je vois pas ça comme étant une décision qui est contraire aux décisions qu'on prend à l'habitude.
Dans le groupe CH, vous êtes également responsable du volet divertissement. À quoi va ressembler la prochaine année en termes de spectacles à Montréal? Ou de spectacles internationaux, là, de grandes vedettes qui viennent au Centre Bell?
Ben, on a quelques spectacles déjà prévus à l'automne. Je pense que le premier côté international, ce serait Genesis, qui est au mois de novembre. Je crois que c'est autour du 20-22 novembre. Alors, ça va dépendre si ces gens-là premièrement, venir au Canada, ce qui semble être le cas, mais pour faire des tournées à l'international, il faut que ces artistes-là puissent trouver plusieurs dates. Puis donc, c'est au groupe, c'est à ces artistes internationaux-là, pardon, de déterminer si ça en vaut toujours la chandelle de faire la tournée, parce que s'il y a des marchés qui se ferment, à un moment donné, ça finit qu'économiquement, c'est moins intéressant pour eux. Alors, je pense que nous aussi, de notre côté, on a nos règles et les restrictions quant à la capacité. Alors, on va devoir voir si tout ça a de l'allure. Mais on a toujours des dates au Centre Bell de prévues à l'automne. On a nos festivals qui s'en viennent, les festivals donc gratuits de Spectra, Franco et Jazz, qui s'amènent très tôt en septembre au quartier des spectacles. Et par la suite, on a aussi Oshiaga. Pardon, c'est Hillsonic en premier et Oshiaga en deuxième au Parc Jean-Drapeau. Alors, on a hâte de présenter ça au Montréalais. La vente va bien, des billets. Et puis, il y aura les restrictions, bien sûr, mais on va faire ça dans les règles de l'art. On a très hâte de mettre ça de l'avant.
Et en terminant, vous êtes également au Conseil des gouverneurs de la Ligue nationale comme gouverneur suppléante du Canadien. Est-ce que les joueurs de la Ligue nationale vont aller aux Jeux olympiques de Pékin au mois de février?
C'est une excellente question. Je pense que cette décision-là est imminente et je peux pas me prononcer là-dessus dans le moment. C'est la Ligue qui va décider, mais je crois que la décision sera imminente.
Parfait. Merci, Mme Bélanger.
Merci beaucoup.
Merci. Bonne journée.
À vous aussi, France-Margaret Bélanger, qui est présidente du sport et divertissement pour le groupe CH. C'est l'ensemble des activités, sauf le volet hockey, là, les opérations. C'est M. Molson qui...
Marc Bergevin qui reste le
DG, puis M. Bergevin se rapporte à M. Molson.
Exactement.
Voilà.
L'essentiel de Paul Arcan.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.